je continue, je vais terminer tout à l'heure, que le collège est là dans une église ou le collège des ministères pour soutenir le leader, celui qui a reçu la vision, et non pour l'orienter. Vous savez, la tendance est de vouloir orienter celui qui a reçu la vision. Donc Dieu suscite aux côtés du leader ou d'autres ministères auxiliaires pour l'aider. Un leader, c'est celui qui dirige, celui qui conduit. Alors, pour qu'une vision puisse trouver son accomplissement, pour qu'une vision, il faut d'abord dans une église la définir. Quelle est votre vision? Je pourrais poser la question ce matin pour chacun des leaders. Quelle est la vision qu'il a reçue de la part du Seigneur? Ou je pourrais encore poser la question tout à l'heure pour savoir quelle est la vision que nous avons ici dans le Nord. Est-ce que nous avons une vision unique? Est-ce que nous la connaissons? Est-ce que les autres ministères, ceux qui nous accompagnent connaissent la vision? Est-ce que dans l'église où tu es, le pasteur t'a parlé de la vision? Donc il faut la définir et ensuite cette vision pourra se développer. L'église doit avoir une vision, une identité. Et quelle est la vision de votre église? Je le répète. Et la vision doit avoir des buts clairement communiqués, clairement définis. Et quel est le corps que Dieu veut vous donner? Quelles sont les valeurs? Quand on vient ici à la source, on doit connaître nos valeurs. Ou à Ouattrelo ou dans une autre église. Quelles sont les valeurs? Ou nous qui sommes ici, quelles sont les valeurs qui nous unissent? Quelle est notre vision? J'insiste beaucoup, sinon nous ne pourrons pas avancer. Nous allons faire du surplace et tourner. On se retrouve, on se fait du bien, mais quelle est notre vision ici? Est-ce que nous pouvons définir une vision? Et je crois que nous ici dans le Nord, nous sommes encore soumis à une union d'église. Mais quelle est la vision de l'union d'église? On veut la connaître. Chacun de nous devait la connaître. Nous nous attendons à quoi? Donc définir la vision, ça c'est important. On ne peut pas se retrouver ensemble sans définir la vision. Et il y a Paul qui disait aux Corinthiens, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Le son est confus. Il doit y avoir un son clair, précis. Et tout le monde dit, ah voilà, c'est l'heure de la guerre, c'est l'heure qui a sonné. Donc si la trompette rend un son confus, qui se préparera? On n'est pas prêt au combat parce qu'il n'y a pas de... Le son est discordant, tout le monde sonne la trompette, tout le monde. Donc on ne sait pas qui, dans quelle direction aller. Donc nous devons sentir la vision. Dès que vous sentez la vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écrire. Habacuc dit ceci, Habacuc chapitre 2, verset 2. Il dit, Dieu lui dit, écris la vision, donc la révélation, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Est-ce que notre vision est écrite? Ce matin, je ne vais pas vous culpabiliser ni vous choquer, mais il y a des choses que nous avons besoin de dire. Est-ce que nous avons la vision? Est-ce que la vision de ton église est écrite? Est-ce que la vision de notre union d'église est écrite? Écris la vision, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Que toute personne qui vient au milieu de nous connaisse la vision. Qu'on la lise, grave-la sur les tables. Donc, on sent la vision, mais il faut l'écrire. Alors, comment définissez-vous votre vision? Qu'est-ce que vous comptez faire sur les 2 ans, les 3 ans? Quelle est votre vision pour cette année? Voyez-vous? Sinon, nous tournons rond. On est là, on fait des cultes, mais nous allons où? Alors ça, c'est la première étape. Il faut définir la vision. Est-ce qu'elle est là, cette vision? Deuxième étape, c'est l'accord de la vision. Alors, quel pourcentage de votre église connaît la vision? Ouais. Donc, il faut maintenant, la deuxième étape, c'est celle de l'accord. Il doit y avoir accord. Est-ce qu'il y a 5%, 10%, 15%, 75%? Si vous arrivez déjà à 75%, c'est bon dans une église. Les gens connaissent la vision. Non, on est là parce que nous avons une vision. Alors, plus le pourcentage est grand, plus le moteur est fort. Alors, le pourcentage de ceux qui ont saisi la vision, c'est le moteur. Ce sont eux qui doivent entraîner les autres. Donc, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord. Il doit y avoir l'accord. Tout le monde doit être d'accord. Troisième étape, c'est communiquer la vision. On a la vision, on l'a définie, nous sommes d'accord avec cette vision. Maintenant, il faut pouvoir la communiquer. Comment la communiquer? Mais au travers des prédications. Vous savez, chaque serviteur de Dieu a une grâce. Moi, quand on m'entend beaucoup parler, je parle beaucoup de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, la sanctification, ça c'est la base de mon message. Parce que ça va avec notre vision, celle, et je parle beaucoup des ministères, donc des dons de l'esprit, des ministères, donc ça va avec notre vision qui est de restaurer l'église. Hein? Il y a des choses qui peuvent être autour, et nous parlons aussi du combat spirituel, la délivrance, parce que ça fait partie de la restauration des vies. Ouais, les vies doivent être restaurées. Notre objectif, c'est transformer l'homme. Et ensuite, quand l'homme est transformé, il va y avoir un impact dans l'Église. Donc, notre vision de restaurer, nous parlons de la vie de l'esprit, de la repentance, et nous parlons aussi de la délivrance. Parce que la personne doit être libre, sa vie doit être restaurée spirituellement. Et ensuite, maintenant, nous pouvons servir Dieu. Donc, mes prédications tournent autour de là. Et moi, je n'ai pas d'autre message, je ne parle que de cela. Donc, les prédications, nous communiquons la vision au travers de la prédication, des enseignements orientés vers la vision. Première des choses. Donc, tous ceux qui viennent, écoutent ces paroles. Il peut y avoir des nuances, mais souvent, je tourne autour. Deuxième chose, pour communiquer la vision, ce sont les images. Les affiches, on rentre à l'église, on voit déjà les affiches, les images, les banderoles, tout ce qui peut stimuler les chrétiens dans une église, déjà. Donc nous vivons avec la vision, nous sentons la vision, nous avons la vision. Donc on doit la ressentir dans l'église. Il peut y avoir des écrits au mur, les gens lisent, ils voient cela, pour qu'ils soient imprégnés de la vision. Ensuite, les brochures, tout ce que nous distribuons aux chrétiens, ceux qui viennent, doivent parler de la vision. Donc nous communiquons. On peut aussi parler dans les classes d'affermissement, pour les nouvelles personnes qui arrivent. Tout au début, il faut parler de la vision, afin que la personne ne soit pas déformée. Ensuite, nos statuts aussi doivent relever la vision de l'Église, distinctement, clairement, nos statuts de l'Église. Et il y a aussi les chants, les cantiques. Nous aimons beaucoup les cantiques de victoire, quelque chose qui proclame la grandeur de Dieu, la victoire de Dieu. Ah oui, même dans l'adoration, quelque chose de comme ça. Donc, les cantiques dans une Église sont en rapport avec la vision. Mais une fois, j'ai entendu l'Église qui commençait à chanter un cantique, je dis, mais où est-ce qu'ils ont eu ça? Ça ressemblait à quelque chose que j'avais entendu dans mon enfance. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis, mais où est-ce que vous avez eu ça? Et les paroles ne correspondaient pas à la vision. Je dis, non. Donc même les chansons, nous regardons, nous sélectionnons et nous baignons dans cette atmosphère de la vision. Donc je m'arrête là, on va passer à la deuxième session. Voilà, en gros, ce qui regarde la vision. Et chacun de nous doit pouvoir écrire la vision. Si nous avons une vision unique, nous devons la brandir. On ne peut pas avancer sans la vision. On ne peut rien faire sans que la vision soit claire. Sinon, c'est ce que j'appelle chez moi, quand on se retrouve ensemble, ça devient une paroisse. Vous savez ce que c'est une paroisse? Ils n'ont pas de vision dans une paroisse. On se retrouve, on est là, bon, il y a un collège qui dirige, le pasteur, on peut l'envoyer de n'importe où, on l'a fait, il vient, il est là juste pour le dimanche, c'est une paroisse. Mais nous avons besoin de la vie. Ah oui, ce n'est pas la paroisse dont on a besoin, c'est la vie. Nous avons besoin d'aller de l'avant. La paroisse ne peut pas grandir, c'est les mêmes personnes. Ouais, c'est une croissance biologique, les enfants qui naissent font partie de l'Église. Mais aller chercher les gens dans le monde, non, c'est ça, ça ils ne font pas, c'est trop audacieux ça. Donc on est une paroisse. Et le collège peut même débaucher le pasteur, le collège des anciens. Ils débauchent, ils affectent un pasteur, ils le rémunèrent et puis ils peuvent le débaucher. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous, à la base, il y a une vision, il y a un leader. Chaque église a un leader, chaque assemblée locale. Ouais. Et dans une église, il y a plusieurs leaders. La louange a son leader, l'intercession a son leader, ainsi de suite. Et je rassemble de temps en temps tous les leaders, je prie avec eux, je communique la vision. Nous devons renouveler la vision, on répète la vision chaque année. Chaque année, nous répétons la vision. Et pour l'année, ce que nous devons faire. Et ceux qui arrivent connaissent la vision. Nous baignons dans cette atmosphère et l'église va de l'avant. Alors, nous passons à la deuxième intervention. Je voudrais prier encore un instant. Seigneur, ce matin, c'est avec humilité que nous sommes devant toi, aussi avec crainte et tremblement, Seigneur. Nous prions que tu nous assistes. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, mais que tu nous inspires, que chaque mot, chaque phrase vienne de toi. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je voudrais maintenant parler de la préparation du leader. Dieu a des plans, Dieu a des projets qu'il veut réaliser. Mais il va les donner à un leader, à une personne. Mais Et quand la personne a reçu la vision, il y a un temps de préparation. Alors, le drame aujourd'hui, c'est quoi? Souvent, nous lançons des personnes dans le champ sans être préparées. Mais nous les envoyons à l'abattoir. On a vu des ministères abandonner l'œuvre, mais parce que ces personnes n'ont pas été préparées. On a vu des ministères faire naufrage par rapport à la foi, parce que ces personnes n'ont pas été préparées. Vous voyez, nous devons préparer les ministères à affronter l'œuvre de Dieu. Donc la préparation du leader. Et nous allons voir donc l'exemple de Joseph dans Genèse au chapitre 37. Genèse 37. Et nous lirons les 5 premiers versets. Non, on peut aller même jusqu'au verset. Oui, les 5 premiers versets. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc là, nous allons voir la préparation d'un homme, c'est Joseph, la préparation d'un leader. Chaque leader que Dieu utilise doit premièrement être préparé à assumer ce rôle. Si Dieu veut utiliser une personne, il faut que la personne soit préparée à assumer ce rôle. Donc une préparation adéquate est la seule assurance pour un leader de pouvoir agir efficacement pour Dieu. Et beaucoup de leaders aspirent grandement à servir de façon efficace. Il y a une aspiration, mais il y en a beaucoup qui sont très peu préparés, qui sont prêts à payer le prix pour être préparés à cette tâche. Très peu sont préparés. Très peu aspirent à payer le prix. Très peu. Je disais tout à l'heure sur la vision, je parlais avec des serviteurs qui disent « Non, mais nous, il est difficile qu'on accepte de payer le prix. On n'aime pas la souffrance. » Quand Dieu t'appelle, tu dois accepter la souffrance. Moi, je dis toujours que la souffrance, que la bénédiction vient après la souffrance. Ah oui, c'est le prix à payer. Tous nous recherchons l'onction. Que Dieu nous utilise, que nous soyons efficaces, que nous sommes des hommes de Dieu, ouais, que nous ayons une grande église, une bonne église. Mais quand vous allez dans ces églises, ces gens-là ont payé le prix. Ces gens-là ont été préparés. Nous devons être conscients de notre appel. Nous devons être conscients de ce que nous sommes. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut? Je ne peux plus faire certaines choses comme tout le monde. Parce que Dieu m'a mis à part. Il y a des exigences. Et je dois me plier à ces exigences du ministère. Quand nous lisons l'Ancienne Alliance, nous comprenons clairement ce que Dieu voulait pour les sacrificateurs, les Lévites. Clairement. Ah oui, on dit que Jésus est venu abolir la loi. Non, il est venu pour accomplir. Il y a des choses qui nous servent, qui sont pour nous comme des leçons, des exemples. Et nous voyons dans ce texte que Dieu va confier quelque chose d'important à Joseph. En lisant tout le texte, tout Genèse 37. Quelque chose qui va sauver sa famille, quelque chose qui va sauver sa nation. Dieu va lui confier cela. Et pour cela, alors ça c'est important ce que nous allons voir, la préparation, Dieu va commencer à former son caractère. Je souligne bien, Dieu va commencer à former le caractère de cet enfant. Quand Dieu nous appelle, il va commencer à forger notre caractère. Pourquoi certains n'arrivent pas à aller de l'avant? Mais parce que le caractère n'a pas été transformé. Quand Dieu t'appelle, tu dis « Seigneur, me voici, je suis à toi, fais de moi ce que tu veux ». Laissons-nous être modelés par lui, qui nous modèle, qui nous façonne, qui nous donne la forme que lui, il désire. Laissons-nous être émondés, c'est-à-dire taillés par lui, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits pour la gloire de son Saint-Nom. Beaucoup de ministères ne portent pas de fruits parce qu'ils n'ont pas accepté ce travail-là, de brisement, de la formation du caractère, de la transformation. Dieu nous appelle pour que nous puissions être la transformation du caractère, ça veut dire que nous devons être imprégnés de la divinité. Voyez-vous? Quelque chose de, qui est cette empreinte divine en nous. Que tout ce qui était acquis dans le monde, notre éducation, comme le monde, notre statut social, notre façon de voir les choses, voyez, notre raisonnement, notre rationalisme, notre scepticisme, toutes ces choses-là, mais souvent sont incompatibles, en désaccord avec l'œuvre de Dieu. Beaucoup de choses. Et il y a besoin de changement. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'être préparés. Et il y a un prix. Et nous allons voir dans ce texte que Joseph va payer le prix. Frères et sœurs, acceptons de payer le prix. Alors moi je dis souvent à Antoine, je le répète, je dis mais il y a un potentiel ici en Europe pour faire un bon travail. Quand j'ai déjà une église qui est là, qui a des chaises, qui est là, c'est terminé. Qu'est-ce que je cherche maintenant? Mais que j'ai l'onction nécessaire, que je sois préparé maintenant à assumer cette responsabilité. Il y a un potentiel. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, tout est sur place. Mais nous avons maintenant besoin pour que cette œuvre-là puisse s'épanouir, former des ouvriers. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et il y a un prix, frères et sœurs. Dieu va former le caractère de Joseph. Alors, au verset 2, il est dit que Joseph était avec ses frères. Alors, rapidement, avant de voir vraiment ce qui va forger cet homme-là, nous voulons voir les traits de caractère, ce qui caractérisait Joseph. Il était au milieu de ses frères. Dieu dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dieu va susciter un homme ou une femme du milieu de ses frères. Il ne va pas aller prendre un extraterrestre ou une personne ailleurs, mais souvent c'est du milieu des frères. Il était. Et ça, c'est l'ombre d'une église, l'ombre de l'assemblée dans l'Ancien Testament. Nous sommes entre frères. Nous sommes avec des frères. Mais dans cette assemblée, il y avait des paroles, il y avait des comportements de ses frères qui chagrinaient cet enfant dans cette assemblée locale. Là où les hommes se retrouvent, il y aura toujours des problèmes, des frustrations. Ah oui, des frustrations. Ah, on m'a dit ceci. Ah, on a dit ceci. Ça parle entre frères et sœurs. Même des choses qu'on n'a pas vues, vérifiées, mais on raconte. Le téléphone sonne et ça circule. Donc, dans cette assemblée. Et c'est ainsi toujours au milieu de nous. Donc, dans cette assemblée, il y avait des paroles, des comportements qui chagrinaient cet enfant. Voilà, il y avait des choses qui étaient là. Mais la Bible nous dit que chaque fois, il allait devant son père. Notre père, c'est Dieu. Nous devons aller, quand il y a des problèmes entre nous, au lieu de parler à nos voisins, à nos amis, mais dans la prière, allons vers le père. Et la Bible dit qu'il rapportait toutes ces choses à son père. Et il ne diffame pas ses frères. Il ne les condamne pas, il ne parle pas aux voisins, mais il parle à son frère. Et au verset 3, une autre chose qui caractérise cet homme, cet enfant, il avait une tunique de plusieurs couleurs. Et son père lui a confectionné cette tunique. Vous savez, Dieu nous a préparés, avant même la fondation du monde, à être des ministres de Dieu. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Et quand nous venons au monde, consciemment ou inconsciemment, il y a des choses qui vont se faire sans même qu'on se rende compte. Voilà que son père lui confectionne cette tunique-là. Mais ça, c'était le symbole de la royauté, c'est le symbole de la justice. C'est la nature de Dieu que nous avons en nous. Et son père lui fait cette tunique-là. C'est le symbole aussi de la justification. Et son père, d'une manière inconsciente, lui confectionne cela. Cette tunique était faite pour les personnes qui allaient régner, pour les personnes qui, d'autorité. Mais Dieu lui fait cela à Joseph, alors qu'il était le Benjamin de la famille. Donc il y a des choses qu'on peut faire sans le savoir. C'est pour cette raison que moi je ne discute jamais. Je laisse les choses se faire. Je vois dans l'assemblée, Dieu va commencer à susciter un jeune. Je dis, Seigneur, fais ce que tu veux faire. Mais Dieu aurait pu choisir un autre de ses frères, le plus aîné, ou le plus fort, ou le plus intelligent. Mais il va choisir Joseph. Donc ça, c'est, ça relève de la souveraineté de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Mais quand Dieu l'a appelé, il avait 17 ans, un jeune. Ne méprisons pas la jeunesse. Ah oui, ça c'est notre relève, nous devons les préparer. Et une église qui a des jeunes, c'est un bon signe. Ça veut dire que la relève est là. Moi je peux laisser un jeune prêcher. Même s'il y a des balbutiements, laissez-le faire. Nous allons corriger certaines choses. Il faut les pousser, les lancer, les encourager à servir. Donc il y avait cette tunique là en lui. Donc, inconsciemment, son père et toute l'assemblée locale le préparaient. Une autre chose que j'ai remarquée dans la vie de Joseph, c'est qu'il avait des songes. Des songes. Alors, les songes, vous avez déjà lu ces textes, ça c'est l'intervention de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Dieu lui accorde une vision, elle était claire. La vision que Dieu lui a donnée en songe. Quand ses frères ont écouté, ils ont dit, mais tu vas régner sur nous. Ce n'est pas Joseph qui l'a dit, ce sont ses frères. Ouais, ceux qui sont autour de nous doivent comprendre la vision que nous avons reçue. Si nous sommes spirituels, nous comprendrons la vision. Tu vas régner, tu régneras. Alors, donc deux fois de suite, et son père aussi, sa mère, commençait à avoir des doutes. Chers parents, n'empêchons pas, n'étouffons pas ce que Dieu a mis dans nos enfants. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est la haine. Donc, à cause de ces songes, à cause des paroles, ceux qui devaient faire du bien semblent choqués. Ils sont choqués. Donc, Joseph a reçu une vision, une révélation. Et quand nous lisons cette révélation, c'est qu'il va être une autorité, il va régner. Une fois, ils étaient dans un champ, ils voient en vision, en songe, ils étaient en train de lier des gerbes dans le champ. Et sa gerbe s'est mise debout au milieu et les autres gerbes entouraient sa gerbe. C'était clair la vision. Lui-même, il a reçu et en expliquant le songe, les autres aussi ont compris. Il avait compris qu'il devait régner. Il a reçu une vision de Dieu. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne la vision. Joseph, Dieu l'a appelé et lui donne la vision. Tu ne peux pas te lever sans vision. Dieu ne peut pas t'utiliser sans vision. Et pour cela, Dieu va commencer maintenant à former son caractère. Dieu cherche la fidélité. Entre le temps de la révélation, le temps que tu reçois la vision, et l'accomplissement de cette vision-là, il y a un fossé, il y a un trou, il y a un temps. Et ce temps-là, moi je l'appelle fidélité. Le temps entre la vision, la réception de la vision, et son accomplissement, sa réalisation, il y a le temps de préparation. Préparons les leaders, préparons-nous, prépare-toi à assumer cette responsabilité. Dieu cherche la fidélité. Et cette fidélité, dans la vie de Joseph, va se manifester dans quelques domaines, dans plusieurs domaines. Nous allons voir ça maintenant. Comment va se manifester la fidélité? Il a une vision pour qu'elle se concrétise. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Fidèle jusqu'au bout, constant jusqu'au bout. Au verset 23 à 24, s'il vous plaît. Voilà qu'un jour, Dieu va, Jacob va dire à Joseph, il dit, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et le troupeau est en bonne santé, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. À Sichem. Alors, au verset 23, lorsque Joseph, c'est là où nous allons voir maintenant la première manifestation de la fidélité, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Donc voilà la première des choses. Ils le jetèrent dans la citerne, dans un trou. Alors, vous savez, dans une citerne, une personne qui était porteur de la révélation de Dieu, porteur de la vision de Dieu, on le jette dans une citerne. Mais ce n'était pas les gens de l'extérieur, ses propres frères. Le combat commencera dans l'église, parmi tes propres frères, qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Frère, tout ce que nous faisons est surnaturel, est spirituel. Ceux qui ne comprennent pas vont te mettre dans un trou, dans une citerne. Mais dans cette citerne, comment il était? Dans la solitude. Il était seul. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Certainement des serpents dans le désert. Des araignées, toutes sortes de choses, des scorpions. La chaleur, la soif. Il était là, seul. Et nous voyons que Joseph... Excusez. On voit que Joseph ne s'est pas plaint. Il n'a pas pleuré. Et il n'a pas renoncé à sa mission. Il n'a pas dit parce que on m'a mis dans une citerne, maintenant je renonce à ma mission. Je supporte la révélation de Dieu. Pourquoi mes frères me frustrent? Combien de fois n'ai-je pas vu des personnes appelées au ministère dans les tables de la préparation ou en plein service qui veulent abandonner? Mais ça veut dire que le caractère n'a pas été formé, forgé. Donc, nous voyons la préparation à la formation du caractère de Joseph. Il fallait qu'il affronte la solitude, qu'il affronte les dangers. On le met dans une citerne, dans un trou. Mais qu'est-ce que ses frères voulaient? C'était sa mort. L'objectif était qu'il meure et qu'il disparaisse. Qu'il ne puisse pas exercer sa mission. Oh, combien de fois n'avons pas nous étouffé les ministères, tué les ministères que Dieu a suscités? Nous-mêmes, dans nos églises, il y a plusieurs façons de tuer un ministère. Plusieurs façons. On ne va pas énumérer cela, mais nous savons comment on peut tuer un ministère. Donc voilà la première des choses. Dieu commence à former son caractère. Moi, je crois qu'un ministère, même s'il y a des problèmes, des difficultés, forgeons son caractère. Formons son caractère. Voyez-vous? Et toi qui es en formation, accepte certaines choses, même s'il y a des frustrations, même s'il y a des paroles dures, des paroles mauvaises, accepte. Nous sommes dans une étape. Vous voyez, c'est ça la fidélité. Nous devons comprendre que nous sommes appelés. Mais il y aura toujours des difficultés, des frictions, des frottements, des échanges de paroles, des incompréhensions. Mais notre caractère change. Nous sommes là, on ne peut pas abandonner. Nous avançons, nous continuons, parce que Dieu nous a confié une mission. Donc voilà la première des choses, Dieu ses frères le mettent dans une citerne. Alors, les mêmes qui l'ont mis dans une citerne, ce sont les mêmes qui le sortent de là. Même si les hommes te condamnent, mais Dieu ne te condamne pas. Il y aura un temps où tu sortiras de là. Donc reste tranquille et tu continues à avancer. Deuxième chose, dans la fidélité, versets 26 à 28, nous pouvons lire cela. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Voilà donc Joseph est vendu. Une autre chose dans sa formation. Vous voyez, qu'il a vécu dans sa formation. Porteur de la révélation de Dieu, on le vend. Et vous savez qu'à cette époque-là, quand vous étiez vendu, vous étiez comme un esclave. Or, un esclave, c'est une personne qu'on pouvait mettre à mort, on pouvait disposer de lui, faire de lui ce qu'on voulait. Tu es porteur de la révélation de Dieu, mais on te vend. Mais nous voyons que Joseph ne bronche pas, il ne parle pas. Il est conscient de ce que Dieu a mis en lui. Donc, le voilà amené en Égypte, et là, il va maintenant vers l'accomplissement de sa destinée. D'une manière inconstante, inconsciente, il va. Sa destinée était qu'un jour il puisse régner. Mais Dieu va t'amener vers des chemins difficiles pour que cette mission-là s'accomplisse. Maintenant, on lui fait faire un voyage gratuit de là où il était jusqu'en Égypte. Oh, mais Dieu a des surprises, c'est des petits clins d'œil de Dieu. Et il aime souvent nous les faire, mais nous ne comprenons jamais. Ah oui, jamais. Et comme nous sommes des râleurs, mais si c'était nous, on allait dire, mais c'est quoi ça? Mais j'allais ameuter tout le monde, mon association, dans la rue avec les banderoles, les pancartes, et commencer à dire, non, on ne veut pas. C'est ça nos églises maintenant. C'est comme des syndicats, on dit, non, on ne veut pas. C'est trop dur, c'est trop difficile, pourquoi il fait ça? C'est la torture, nous. On aime les choses simples. J'ai la vision de Dieu, mais on me maltraite à l'église. Mais Dieu forme notre caractère. Il forge. Vous savez, une personne qui est vendue comme esclave, mais psychologiquement, tu peux te sentir diminué. Un esclave, c'est une personne qui est méprisée. Donc, on travaille même sa mentalité à affronter toutes les situations. Nous devons affronter toutes les situations devant nous. Alors, troisième chose que je remarque encore dans la formation du caractère, dans Genèse 39, Genèse 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison ou au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alors là, nous voyons quelque chose qui se manifeste dans sa vie. Donc, vendu aux Ismaélites, les Ismaélites le vendent dans l'Égypte chez Potiphar. Et là, il commence à travailler comme serviteur, au fait comme un domestique, un enfant de la maison. Ouais, il y avait une autre personne qui était l'intendant de la maison, mais lui, il était comme serviteur. Certainement qu'il devait verser de l'eau sur les mains de Potiphar quand il voulait se manger, se laver les mains. Certainement qu'il devait préparer la petite assiette, cuvette d'eau pour les ablutions de Potiphar. Certainement que c'est lui qui débarrassait la table. C'est lui qui devait apporter à manger un certain nombre de choses. Ouais, donc, serviteur dans une maison. Celui qui avait reçu la révélation de Dieu. Dieu peut nous amener dans une situation de serviteur à un moment donné. Ah, vous dites pas amen là. Ah oui. Vous savez, moi je dis à tous les jeunes que je forme chez moi, je dis dans ce monde, il y a des bons prédicateurs. Tout le monde peut prêcher la parole. Il suffit que tu aies une certaine connaissance intellectuelle en lisant la Bible, tu peux. Mais il y a une différence. Nous ne voulons pas former des prédicateurs, ceux qui prêchent simplement, mais nous voulons former des serviteurs, des gens obéissants, des gens impliqués dans le service, au service des autres, au service de la vision, des gens qui sont là prêts à rendre service. Pas des indépendants. tas, pas des personnes qui sont un peu hautes. Non, nous devons nous humilier. Vous savez, la position de serviteur vous amène dans une position de brisement, d'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Si nous voulons servir Dieu, soyons humbles de cœur, humbles d'esprit. Vous savez, le monde nous donne d'autres valeurs. Il faut paraître, il faut être vu. Non. Moi, j'ai le Seigneur, je dois rester humble. L'humilité ne veut pas dire faiblesse. Ah non, c'est un état d'esprit. Dieu nous prépare pour mieux le servir, pour accepter ce qu'il nous dira. Vous savez, quand on est hautain, on a même du mal à recevoir certaines choses de la part de Dieu. On a du mal parce qu'on dit c'est moi, c'est mon raisonnement, ce sont mes capacités, c'est mon savoir. Et souvent, on regarde à soi-même. Oui, les hommes me considèrent, j'ai un certain statut social. Mais pourquoi me briser? Pourquoi ceci? Or, une personne humble va accepter. Ah, c'est de Dieu. Ah oui. Donc, l'humilité précède la gloire. Donc, le voilà dans la maison de Potiphar. Et ce qui se présente ici, c'est que Joseph est resté fidèle dans le service. Fidèle dans la gestion de ce qui lui a été confié. Rien ne se perdait. Rien ne se cassait dans la maison. Rien n'était volé, rien ne disparaissait. Fidélité dans la gestion. Dieu commence par nous confier des petites choses. Avant que nous puissions élever quelqu'un, que la personne commence par des petites choses à l'église. Nous voyons comment tu peux mettre l'aspirateur dans la salle. Tu veux prêcher l'évangile? Commence à mettre l'aspirateur. Amen. Ah, merci beaucoup. Là, vous m'enthousiasmez là. Tu veux prêcher l'évangile? Commence à aider ton pasteur à faire les courses. Tu es au volant, tu conduis. Le week-end, tu l'appelles. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je serai à tes côtés. Je viens. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à faire chez toi? Moi, je viens. Nous sommes tellement dans un monde individualiste où on n'ose pas faire certaines choses. Mais quelles que soient les cultures, nous n'avons qu'une seule culture, c'est la culture biblique. Amen. Que je sois aux États-Unis, en Afrique, en Asie ou en Europe, ce qui nous unit, c'est ce que Dieu a dit. Et la culture ne peut pas nous influencer. Sinon, c'est dommage. Sinon, le monde est dans l'église. Je quitte le monde avec toutes les souffrances, je viens dans l'église, je retrouve le même schéma. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans le royaume et le royaume de Dieu a ses principes, des principes de fonctionnement et nous devons nous assujettir, accepter ces principes-là. Je peux appeler Antoine, je peux appeler mon pasteur, n'importe lequel. Je dis, pasteur, je suis libre, je te donne une journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a des choses à faire? Ah, je viens, s'il y a du linge à repasser, je viens le faire. Oh, merci beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est ça le serviteur. Ah non, tiens, il y a un problème au niveau du garage. Je viens te donner un coup de pouce. Tu as des travaux de réfection, je suis avec toi. Tu fais une mission à Nantes, je t'accompagne. C'est ça le serviteur. Parce que auprès de l'autre, je vais apprendre. Vous savez que l'onction se transmet. Nous parlerons de l'onction. Se transmet. Et c'est en cela que je vois des personnes fidèles, mes enfants. Nous devons fonctionner dans une relation de père à fils. Il y a des personnes qui sont plus âgées que moi, mais qui me considèrent comme leur père, spirituel bien sûr. C'est cela, j'ai un père, parce que l'église c'est une famille. Je suis fidèle à mon père, je suis avec lui, je le sers, je sers l'église. Vous savez la référence qui a été donnée à Élisée, l'homme qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut verser l'eau sur les mains de quelqu'un d'autre pendant qu'il veut manger, dit « Amen de l'eau, je... » Mais c'est un acte d'humilité. C'est comme ça qu'on le reconnaissait quand on cherchait un prophète. Allez voir cet homme qui versait de l'eau sur les mains d'Élie parce qu'il était serviteur. Aujourd'hui, nous avons besoin des serviteurs, des personnes disponibles. Donc voilà, fidélité dans le service. Là, Dieu voulait transformer son caractère parce qu'on veut être facilement élevé. Oui. Ne donnez pas la chair rapidement si vous n'avez pas ce sentiment-là. Que la personne commence à préparer les gens à être des serviteurs. Donc Joseph avait été établi sur toute la maison maintenant. Et tout ce qui était dans la maison, tout ce qu'il faisait, réussissait. La maison de Potiphar a prospéré parce que rien ne se perdait. Donc auparavant, les choses se perdaient. Mais sa présence a fait que l'onction qui était sur lui, oui, il avait l'onction sur lui. Et il était conscient de cette onction-là et conscient de la vision, de la mission que Dieu lui avait donnée. Ah oui, ça c'est important. Il ne volait pas à cause de Potiphar, mais à cause de la crainte qu'il avait de son Dieu. Et cette onction-là l'accompagnait. Et la maison a commencé à prospérer. Peut-être qu'auparavant, les sacs de riz disparaissaient, les stocks qui étaient là disparaissaient, mais avec lui, tout s'est stabilisé. Et qu'est-ce que... Mais on le voit. Quand il y a la faveur, la grâce de Dieu sur vous, les gens le reconnaissent. Ceux qui sont autour de vous, même sur le plan professionnel, on reconnaît qu'il y a la grâce de Dieu sur vous. Et j'ai vu dans mon ministère beaucoup de personnes être promues à une situation élevée. Mais parce que la grâce les accompagnait. Et c'est cela, nous devons avancer, on voit cela. Tout ce que nous faisons dans les projets, le travail que nous faisons, les dossiers que nous regardons, il y a quelque chose, une touche nouvelle. Il y a quelque chose de particulier, de différent quand nous faisons un travail. Et voilà que Joseph est maintenant élevé et c'est lui qui avait la charge de toute la maison. Et Potiphar lui a laissé toute la maison. Toute la maison, il pouvait gérer comme il voulait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous avons des collaborateurs dans une église où nous sentons la réussite avec eux, je dis, mais vas-y. Mais nous gardons certaines choses en tant que pasteur parce qu'on sait que celui qui est là n'a pas la même onction que moi. Il casse tout, il détruit tout, il parle méchamment aux gens, il éloigne les gens autour de moi. Moi, je n'en veux pas. Je recherche la personne autour de moi qui a la même onction que moi, qui peut me comprendre, qui peut me suivre, qui peut me soutenir, qui peut m'aider. Joseph était conscient de la présence de Dieu et son maître vit que l'Éternel aussi était avec lui. La Bible dit que le maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc l'onction de Dieu était sur cet enfant-là. Un autre trait que j'ai vu, c'est la fidélité dans la sainteté. Non seulement dans le service, il est demeuré fidèle, mais fidélité aussi dans la sainteté. On va lire à partir du verset 7. Après ces choses, donc après tout cela, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle se posa et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Fidélité dans la sainteté. Pour Joseph, le péché offense Dieu. Devant cette tentation-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il refuse. Voilà, donc nous voyons ici que le caractère de Joseph maintenant est bâti. Il peut dire non. Vous savez, il y a des personnes qui ne peuvent pas dire non. Le caractère est faible. On peut dire oui quand c'est oui, non quand c'est non. Vous voyez, Dieu a besoin de forger notre caractère. Il nous appelle, il nous confie une vision, il va forger notre caractère. Oui, souvent c'est ressenti comme de la dureté. On dit non, il est trop dur, il est trop méchant, c'est trop... Mais c'est un caractère capable de dire non devant les mauvaises choses. Et nous voyons aussi que sa volonté est ferme. Il le refusait. Au verset 10, il dit, la femme venait parler tous les jours à Joseph. Tous les jours. Oh là là. Mais si vous n'avez pas un caractère, mais vous allez craquer, lâcher, vous dites, bon, mais écoute, il n'y a personne dans la maison, je suis avec la femme, nous sommes seuls. Il n'y a qu'à essayer. Tous les jours. Alors, nous voyons là le caractère. Au verset 11, il nous est dit, ce qu'il commence à dire, on va jusqu'à ce que cette femme-là le saisisse par son vêtement. Comment on pourrait appeler ça maintenant ? Tentative de viol. Ah oui ? Mais généralement, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Mais là, c'est l'inverse. Ah oui, mais là, il allait dire, écoute, c'est la femme qui a commencé, moi, c'est une provocation, moi, je cède. Et c'est pour dire ceci, quand notre caractère n'est pas bâti, nous aurons aussi des faiblesses sexuelles. Et qu'est-ce qui a brisé le ministère ? C'est la faiblesse dans ce domaine-là. Le regard que nous portons sur les femmes. Pour les jeunes ministères, ça a détruit. Même les ministères anciens, beaucoup de ministères ont divorcé, sont séparés des femmes, sont allés, parce qu'il y a une faiblesse de ce côté-là. La préparation n'a pas été faite pour que tu puisses résister devant la tentation. Quand un serviteur de Dieu se retourne vers tout ce qui est obscène pendant son ministère, c'est mauvais. Ah oui, je connais des ministères, en plein ministère. Il prêche la parole, se tient devant les gens. Il est sur l'estrade. Mais à partir du moment où tu es sur l'estrade, il doit y avoir la crainte de Dieu. Mais il est là, il continue à regarder les films porno. Un pasteur, c'est inacceptable. On ne peut pas faire ça. Maintenant, avec Internet, les télévisions, les cinémas, etc. Mais si tu n'es pas marié, tu nourris ton esprit de ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas faire n'importe quoi. Et le Saint-Esprit a attristé. Tu peux le faire en cachette. Les gens ne voient pas. Mais le Saint-Esprit t'a vu. Et ton ministère, quand tu viens devant les gens, ne portera pas de fruits. Tu as beau hurler, tu as beau prêcher. Ça ne passe pas parce qu'il y a un obstacle. Tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu n'as pas été formé à résister devant ces choses-là. Regardons autour de nous. Et tout le monde trouve normal que les gens... Oui, Antoine. Ah bon, d'accord. Tout le monde trouve que normal qu'un pasteur divorce. Ça commence à rentrer dans les habitudes. Normal. On ne dit plus rien. Ah oui, certains m'ont dit, moi je vais à l'église, je regarde à Dieu, je ne regarde pas à l'homme. Ah non, mais cet homme-là, c'est le canal de bénédiction pour nous. Frère, sur ces questions, nous devons être intransigeants. Parce que ça amène la souillure. Et quand tu fais ces choses-là, il y a des impuretés dans ta vie. Quand tu pries pour des personnes, tu leur communiques cet esprit-là. Les esprits d'impudicité, esprits de viol, d'adultère, toutes ces choses-là. De pornographie, toute la saleté. La personne est venue saine, mais après la prière, elle repartira polluée. Et tu as plus du mal dans l'église. C'est pour ça que je dis à tous mes serviteurs, quand vous allez quelque part, même s'il y a une grande onction, même si la personne crache du feu, ne donnez pas vos têtes n'importe comment. Parce que vous ne connaissez pas la vie de la personne. Il y a des choses anciennes, même en plein exercice, qui peuvent nous rattraper. Si ces choses n'ont pas été détruites dans la vie, c'est pour cette raison que la préparation d'un ministère est importante. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nous ne serons jamais efficaces pour le ministère. Chacun de nous a un passé. Mais si ce passé n'a pas été détruit, comment il peut être détruit ? Par la repentance. Ah oui, par la confession, par le renoncement et l'abandon de ces choses-là. Et compris pour toi, pour que tu sois libre. Une personne doit venir dans le ministère entièrement libre. Libre. Et quand un ministère est libre, vous le sentez, vous le voyez, il vous communique la joie de vivre, la bénédiction est là, l'onction de Dieu est là, la grâce de Dieu est là, la faveur sur vous. Vous avez envie de revenir à chaque réunion, vous avez envie de l'écouter parce qu'il y a quelque chose qui passe. Le canal est purifié, ça passe. Oh, il y a des personnes, oh là là, vous sentez que ça ne passe pas. Même si les choses sont bien dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, ça se lit sur son visage. Ça se lit sur toi, on dit ça ne va pas. Tu as beau le cacher. Tu peux aller faire n'importe quoi, tu changes de ville, mais le Saint-Esprit te voit. Mais un jour, le Saint-Esprit va révéler cela à la face de tout le monde. On dira, ah, c'est ce que tu fais? Et tu nous prêches l'évangile? Dieu va nous confondre et confond ses enfants. Donc, on voit ici que Joseph a pu dire non. Vous savez, il est difficile de refuser les avances d'une femme. Ah oui, surtout quand ça vient de la femme, une belle femme, la femme de son patron. Ah là là, écoute. Fidélité dans la sainteté. Et nous voyons que c'est le caractère qui amène tout cela. Joseph, c'est le type qui marche dans la sanctification permanente. C'est un combat, cette sanctification-là. Un autre aspect, vous voyez donc là, le caractère commence à se faire mettre en place. Un autre aspect, nous allons lire au verset 20, c'est la suite, chapitre 39, verset 20. Donc à la suite de cela, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. La fidélité dans la sainteté va t'amener en prison. Il ne faut pas qu'on t'emprisonne parce que... Mais si on m'emprisonne pour la cause juste, je bénis le Seigneur. Ça, c'est une cause juste. Fidélité à Dieu. Et même dans la prison, nous allons voir que Joseph va demeurer fidèle. Fidèle. Il ne s'est pas découragé, même en prison. L'Éternel était avec lui. L'onction était là. Il était conscient de sa mission. Tout ce qu'il voulait, c'était l'accomplissement de la vision de Dieu. Il avait déjà reçu, quelles que soient les étapes qu'on me fait traverser, je n'ai qu'un seul objectif, atteindre le but que Dieu s'est assigné pour nos vies, pour ma vie. Ce que Dieu veut faire, il veut m'utiliser, je dois atteindre le but. On peut me faire passer dans une vallée, ça c'est pas un problème. Je peux passer au travers du feu, ce n'est pas un problème. Je peux changer de continent, ce n'est pas ça qui va faire perdre la vision. L'onction était sur lui parce que le Saint-Esprit nous accompagne partout. Le caractère était bâti et il était là. Et en prison, il va avoir la révélation pour libérer le chef des échansons. Alors... Et le chef va dire, des échanciers dit, mais quand Joseph va dire, quand vous serez libre, ne m'oubliez pas. Hein, dites qu'on me libère. Mais des années sont passées. C'est 2 ans après que Pharaon va avoir un songe et on cherche une personne qui peut expliquer le songe. L'onction qui est sur nous va nous donner plus de connaissances. Et en ce moment, il se souvient qu'il y a un homme qui est en prison, qui s'appelle Joseph, qui peut expliquer les songes. Et je fais une parenthèse pour dire que même en prison, il avait été élevé. C'est lui qui avait la responsabilité au niveau de la prison. Quand tu as la vision de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu, tu seras toujours en position de supériorité, en position d'autorité, en position de dignité. Dieu va t'élever. Ah oui, toujours Dieu va t'élever. Tu vas faire la différence, quels que soient les lieux. S'il y a beaucoup d'églises dans la ville, il y aura une différence parce que tu as la vision, l'onction de Dieu. Tu peux changer de pays, tu feras la différence parce qu'il y a la vision et l'onction de Dieu. Vous êtes dans une église, tu feras la différence parce que l'onction et la vision de Dieu est sur toi. Même en prison, il a été élevé. Et voilà qu'il arrive à expliquer le songe. Donc, Pharaon cherchait, il dit, mais il nous faut un homme sage qui puisse préparer le pays à assumer ces temps de famine. Les 7 années de famine, il faut un homme sage. Joseph dit, il faut un homme sage qui puisse le faire. Et Pharaon se retourne vers Joseph, dit, mais cet homme-là, c'est toi. C'est toi, puisque tu as pu expliquer le songe. C'est toi qu'on va élever. Voyez la faveur de Dieu. Il est arrivé au bout de sa vision. Il est arrivé au moment où sa vision va commencer maintenant à se mettre en place. Et Joseph a été élevé comme gouverneur, premier ministre au niveau de l'Égypte. Tout est possible à celui qui croit. L'Égypte à cette époque était une nation puissante qui commandait le monde, qui exerçait une influence sur le monde de l'époque. Et le voilà étranger, mais premier ministre. Gouverneur, il était là, un homme sage. Mais Dieu avait déjà montré ça 15 ans avant, 20 ans avant, qui devait régner, qui devait gouverner. Entre la réception de la révélation de la vision et son accomplissement, il y a un temps. Ne te précipite pas, attends le temps de Dieu. Et quand le moment arrive, on le reconnaît. Donc après Pharaon, c'était maintenant Joseph. Et nous voyons par la suite que sa famille va venir en Égypte. Donc la vision va sauver sa famille. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la nation aussi va bénéficier de ce que tu as reçu. La ville va bénéficier de ton ministère. Ah oui. Le voilà qui se trouve, donc il commence, il a maintenant 30 ans. Il fait un plan d'épargne, où il va prélever le cinquième des récoltes qu'il va stocker. Et c'est ainsi que l'Égypte va être sauvée de ses années de famine. L'homme fidèle arrive au bon moment, au moment convenable. Il a été préparé. Il a été préparé. Et il a commencé à gouverner. Et nous voyons par la suite, on va lui préparer. C'est maintenant sa 16 ans, comme on dit. Le temps où il devait maintenant accomplir la vision. On lui prépare un char. Et quand il passait, il y avait tous les honneurs possibles. Et on lui donne la femme d'un prêtre. Pas n'importe quelle femme, la femme d'un prêtre. On change son nom. Vous voyez, tout change dans sa vie maintenant. Tous les honneurs dus à un ministre, à une autorité. Donc, voiture, hein, on lui donne la femme de pas de n'importe quelle famille. Ouais. Tout ça, c'est pour préserver son honneur, son autorité. Et on a commencé à mettre un anneau et tout a changé. C'est une nouvelle vie dans sa fonction. Et sa vision trouve là maintenant son accomplissement. Nous devons arriver à l'accomplissement de la vision. Nous devons préparer les leaders à entrer dans l'accomplissement de leur vision. Préparons les leaders. Comment est-ce que nous faisons? Comment est-ce que tu fais dans ton église? Ah oui, mais dans nos églises, nous sommes, moi je dis souvent pasteur-diacre. On est pasteur et diacre en même temps. Ça veut dire que nous faisons tout dans l'église. On fait tout. Le courrier, l'administration, les finances, la louange. Qu'est-ce que je fais? Je regarde, je prie. Je décèle, je discerne ce que Dieu a mis aux uns aux autres. Je dis, bon, toi, tu fais maintenant ça. Derrière une personne, il y a toujours un second. Derrière un leader, il y a toujours un second. Leader de l'école du dimanche, il y a un second. Leader de la louange, il y a un second. Leader de la nouvelle administration, il y a un second. Ainsi de suite, nous préparons. Au niveau de l'intercession, il y a un leader, il y a un second. Et je me retrouve avec ces leaders. Nous sommes en retraite, ou en temps de prière, ou en temps de partage. Je parle à ces personnes. Je sais que Dieu les a appelés à soutenir ce ministère-là. Ce sont eux qui vont amplifier la vision que nous avons reçue dans toute l'Église. Je communique la vision que j'ai reçue. Préparons les leaders. Nous avons la vision, mais il faut préparer les leaders. Il va arriver un moment où on va se fatiguer. Il faut que la relève se fasse. On a vu des ministères qui se sont effrité parce que la relève n'a pas été faite, parce que les leaders n'ont pas été préparés. Dieu ne fait exception de personne. Même si ton église est influente, il y a des intellectuels, il y a ceci, mais Dieu peut susciter un ouvrier comme leader maintenant de l'église après toi. Mais acceptons-le. Parce que souvent nous avons des choix humains. J'ai vu des personnes qui ont du mal à choisir. Ils disent, mais qui je veux mettre là? Cette église est pleine d'intellectuels. Je vais choisir qui? Mais il y avait d'autres personnes qui se levaient, formées, mais qu'on osait présenter en public. Frère, ce qui est important, ce ne sont pas nos paroles. Ce qui est important, c'est le dépôt de Dieu dans la vie de la personne. C'est simplement cela. Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser. Donc, n'hésitons pas, faisons lever, prions, confions les tâches. Quelquefois, je veux m'asseoir dans l'église, celui-là assis, c'est un jeune qui prêche, je l'écoute, et après je rectifie, je regarde sa vie, je commence à les retrouver, manger ensemble avec eux, dîner ensemble ou déjeuner. Nous avons des temps de prière, on va en retraite, je sors avec eux 1, 2, 3 jours, quelque part isolé, nous prions pour qu'ils prennent cette onction. C'est tout un travail, préparer les leaders. Nous avons besoin de préparer. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Quelquefois, Dieu peut faire lever dans l'église des personnes qu'on ne pouvait soupçonner. Ah oui, des femmes qu'on ne pouvait soupçonner. Humainement, quand on regarde, on dit non, pas celle-là, pas celui-là. Mais c'est le choix de Dieu. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de discernement. Ah oui, du discernement pour savoir qui peut prendre la relève. Préparons les gens au caractère. Les jeunes ne veulent plus souffrir. Oui, mais ici, les 40 ans, c'est fini. C'est comme une crise de paresse, les 40 ans. Vous êtes d'accord avec moi? D'abord, à 16 ans, les jeunes sont rebelles. À 40 ans, le jeune ne fait rien. Mais c'est l'âge où on a toute la force de l'âge. Où on doit travailler, jeûner, prier. Frère, amenons les serviteurs à payer le prix. Il faut payer le prix. Vous avez vu Jean-Claude qui est passé ici. Alors là, c'est l'un de mes enfants, c'est mes fils. Il y a des personnes comme ça où on peut dire vraiment c'est mon fils. C'est celui que j'ai engendré. On est fiers. Chaque fois que j'allais passer des temps de prière, Jean-Claude était avec moi. Pendant près d'un an, j'allais tous les mercredis. Pendant près d'un an, à partir du mercredi jusqu'à samedi, j'étais en jeûne et prière. Mais on allait en brousse, on sortait de la ville, on allait quelque part, et c'est lui qui m'accompagnait. Et il était toujours là à regarder mes déplacements, à savoir ce que je faisais. Un jour, au moment où je prends ma voiture, je vais démarrer, je le vois avec son petit sac, il dit, moi je vais avec toi. Je dis, mais qui lui a dit que je vais en retraite? Donc il surveillait. Et j'ouvre la portière, il rentre, on va. Et c'est lui qui est là, à m'accompagner, aller en brousse là-bas chercher un peu d'eau, les légumes, les fruits, parce qu'après les temps de jeûne, etc., on veut manger. Un jour, j'ai commencé à jeûner pendant 12 jours, mais il était à mes côtés. Mais si j'étais parti seul, j'étais fatigué. C'est lui qui préparait l'eau pour le bain, etc., aller me chercher les fruits, parce qu'après cela, il faut quelque chose de léger. Et il était à mes côtés. Mais il était préparé. J'ai compris que voilà, c'est un disciple. C'est une personne qu'il faut aussi accompagner. Qu'il faut accompagner. Et dans nos églises, il y a des personnes comme celle-là. Discernant, voyance, ils sont là. Est-ce que vous ne les voyez pas? Ils sont là. Et nous devons accepter que ces gens-là payent le prix. Le prix dans le jeûne et la prière. Ah oui. Tout le monde se plaint, c'est difficile. Le terrain, moi j'ai dit, il n'y a pas de terrain difficile. Ah oui, non, une personne m'a dit, mais vous en Afrique, c'est plus facile, vous avez des foules. J'ai dit, ah bon. On a vu des missionnaires venir, même avec beaucoup d'argent, qui n'ont pas pu percer. Là-bas, l'affrontement avec les ténèbres, c'est visible. Et si tu n'es pas loin, tu n'es pas équipé, tu ne pourras rien faire. Ici, c'est caché, on ne voit pas trop, mais c'est là. Quels que soient les terrains, il faut que nous soyons préparés. Donc, payez le prix. Combien de temps faisons-nous jeûner à nos serviteurs? On peut établir un programme. On dit une fois par semaine, nous jeûnons. Ça peut être le vendredi ou dimanche, une fois par semaine, pour la préparation des serviteurs. Et tous les 2 mois, nous avons un jeûne de 3 jours. On peut commencer un vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche. Ou on peut commencer un jeudi, vendredi, samedi, on récupère dimanche et ceux qui vont au travail peuvent le faire. Donc il faut une discipline, payer le prix. Parce que c'est en jeûnant et en priant que nous cultivons notre foi, le courage, que nous suscitons l'onction qui est en nous, que le Saint-Esprit libère l'onction qui est en nous. Mais un ministère qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux? Les gens n'ont pas besoin de nos belles paroles. Ils ont besoin de voir la main du Seigneur. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu. Quand ils viennent à l'église, ils ont envie de revenir. Ils disent, voilà là-bas, moi je reviens. Même si le cadre n'est pas agréable, ce qu'ils recherchent, c'est l'onction, c'est la vie. C'est la vie. Et communiquons la vie. Préparons les jeunes à la vie de jeûne et prière. Et une fois par an, nous faisons un jeûne, un long jeûne. Un long jeûne, tout le mois de décembre, nous le consacrons au jeûne et la prière. On ne mange que le soir. Et cette année, c'est au mois de décembre, du 1er au 21. Donc, tout le monde est en jeûne. Mais comment ne voulez-vous pas que Dieu agisse dans l'église? Donc, nous préparons toute l'équipe. Et moi, j'ai des temps de retraite avec les serviteurs. On peut aller où soit on mange, mais on est à l'écart, nous prions. Les temps de nuit de prière. Si vous ne faites pas la nuit de prière, mais qu'est-ce que vous allez avoir? Le temps de la nuit, c'est le moment où les ténèbres travaillent. Mais nous avons besoin de rester en prière, prier pour l'église. Donc, tous ces jeunes qui doivent aller au ministère ont besoin de cette discipline, de cette formation. Frère, si nous commençons à faire ces choses-là, ça va changer. Là où les autres disent que c'est difficile, ça ne sera pas difficile pour nous. Là où les autres ont échoué, nous n'échouerons jamais. Nous n'échouerons jamais. Amenons ce que nous préparons dans une vie de sanctification. Il faut dire aux enfants que nous formons, au ministère que nous formons, qu'il y a la sanctification. On ne peut plus dire n'importe quoi. On n'est pas obligé de parler. Antoine me dit, oui, il est un peu timide. Je dis, non, je ne suis pas obligé de dire n'importe quoi. Tu peux parler, je dis oui ou je ne réponds pas. J'attends le temps de Dieu. C'est ça le ministère, savoir contenir son langage. Parce qu'on parle, mais quand vous parlez, vous libérez l'onction. Vous perdez quelque chose, frères et sœurs. Ah oui, on ne va pas devenir muet, mais on doit faire attention à ce que nous disons. Parce que ce n'est pas ce qui entre qui nous souille, mais c'est ce qui sort de nos bouches. Et le contact avec le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous voyons? Il faut le dire à ce jeune ministère. Qu'est-ce qu'il doit voir? Qu'est-ce qu'il doit lire? Qu'est-ce qu'il doit entendre? Je dis aux enfants, vous n'êtes pas une poubelle, n'acceptez pas n'importe quoi, qu'on vienne jeter n'importe quoi dans votre vie. Donc la sanctification. Donc une vie de jeûne et prière, une vie de sanctification et une vie de lecture de la parole de Dieu. Systématiquement, un serviteur doit lire sa Bible une fois par an, systématiquement. Et ça, on doit le savoir que tu es en train de lire ta Bible, parce que nous partageons. Donc ça, c'est la préparation du serviteur. Je peux m'arrêter? Ok, on s'arrête là. Ok, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un instant? On se libère. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de préparer tes enfants, tes serviteurs, mon Dieu. Merci pour la grâce qui est sur nous. Merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Nous nous soumettons à toi, Seigneur.